Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeux du Mois. Je suis Cyrus et comme d'habitude je suis accompagné par BenoFX. Salut BenoFX.
Salut Cyrus, bonjour à toutes et à tous.
Alors, ce mois-ci, nous allons vous parler de deux jeux, comme d'habitude, évidemment. Alors, tu nous parleras de quoi, BenoFX ?
Eh bien, je vais vous parler de Ganymede.
Ganymede, sorti chez Sorry Warframe.
Tout à fait.
Je ne dis pas de bêtises.
Ganymede, du nom de la lune de Jupiter, enfin, d'une des lunes de Jupiter.
Et de mon côté, je vais vous parler d'Affinity. Affinity, donc, un jeu édité chez Gameflow, qui va plutôt être dans un tout autre registre, hein, parce que là, on va parler des émotions. Ça va être beau.
Ouais. avant de commencer, Cyrus, est-ce qu'on a des commentaires sur le précédent épisode dans lequel on a parlé de Keyforge et de Tréfuté ?
On a trois commentaires. On a un commentaire de Twin, le fidèle commentateur de Proxy Jeux.
Il commente tous les épisodes.
À peu près, ouais, je crois. Il faudrait qu'on vérifie un peu, mais à mon avis, il est à peu près sur tous les commentaires. Donc, il a apprécié la chronique et il m'a remercié pour le travail d'investigation que j'avais mené sur Keyforge. Je vous passe un peu les détails, mais
avoir imprimé des proxys sous le manteau, un peu.
C'est ça, exactement. Voilà. On a également un commentaire de Hammer. Donc Hammer qui a rejoint l'équipe, vous avez dû l'entendre dans les chroniques sorties la semaine dernière, si vous écoutez à peu près au moment de la sortie, qui parlait de plateau d'argent.
Oui, dans Tréfuté, le fameux plateau d'argent, les dés qui étaient servis sur un plateau d'argent.
Et voilà, donc il nous a donné l'expression allemande qui est la traduction à peu près, je pense, du français. Hein. C'est Jemandem etwas auf dem Silbertablett servieren.
Excellent accent. Essayé.
Oula, c'était il y a très très longtemps mon allemand.
Là, j'aurais pas fait mieux, je pense.
Ouais, j'avais essayé, je l'avais lu une fois avant, mais non, c'est pas revenu. Donc ça veut dire offrir quelque chose à quelqu'un sur un plateau d'argent. Donc voilà, l'expression existe effectivement en allemand et il y a bien ce petit plateau, ce dessin de plateau en argent dans le jeu, dans la version allemande également. Ouais.
Il y a aussi Denis Anso qui nous a laissé un petit message pour nous dire qu'il existait une version Android de Tréfuté. Alors j'en ai parlé très rapidement dans la chronique et toujours si vous écoutez assidûment l'épisode chronique, Fendoel a fait l'épisode plateau numérique sur cette version Android de Tréfuté. Et Denis nous dit aussi que dans le genre Roll and White avec un thème fort, il y a Steam Roller que je ne connais pas personnellement.
Oui. C'est un jeu chez Flatline Games et ils avaient fait une première version façon boîte à pizza à Essen.
Façon boîte à pizza.
Il y a 2-3 ans. Ouais. Enfin, tu sais, les boîtes qui s'ouvrent. Je sais pas comment dire du coup. Enfin, ça s'ouvre en deux, ouais. En gros, tu vois. Ils avaient fait une version à Essen il y a 2-3 ans, si je dis pas de bêtises, en tirage limité, peut-être 500 exemplaires ou peut-être même moins. Et puis ils ont fait un Kickstarter, ça doit être l'année dernière, et je crois que le jeu a été livré en début d'année cette année.
D'accord.
Ouais, ça reprend un peu les principes de Steam, Age of Team, voilà, tous ces jeux de Martin Wallace, ouais. Mais avec un système de roll and write. Quoi, voilà. On va effectivement lancer des dés et puis tracer des chemins sur une carte. Et puis le principe c'est de livrer des marchandises d'un point à un autre. Voilà.
D'accord.
Pick up and delivery. J'avais trouvé ça pas mal, moi. J'avais trouvé ça plutôt intéressant dans le genre. Si je sais que t'es fan des Roll and Write, tu peux aller jeter un petit coup d'œil.
Je regarderai ça. Ça marche.
Voilà. Eh ben, je propose qu'on commence.
Allez. Donc, je vais attaquer par Ganymede. Donc, Ganymede, c'est un jeu de Hope S. Wang. Donc, un auteur coréen. C'est édité par Sorry We Are French. Donc, c'est leur premier jeu édité, je crois. Il y a eu le Kickstarter d'Immortalate qui a été arrêté avant la fin, mais Immortalate va ressortir en édition classique. Et donc, je crois que c'est le premier jeu édité sous le label Sorry We Are French, qui en fait, qui est un peu la suite ou le petit frère de Monster Game. C'est à peu près les mêmes personnes derrière. C'est Emmanuel Beltrando qui a monté Sorry We Are French. Alors, je sais pas si c'est vraiment une coédition, c'est pas écrit comme ça, mais sur la boîte, on peut aussi apercevoir le logo de Happy Baobab, donc l'éditeur coréen bien connu. Donc il y a un petit logo Happy Baobab au dos de la boîte, mais j'ai regardé sur Board Game Arena, en fait, j'ai regardé sur Board Game Geek et Happy Baobab n'est pas cité explicitement comme comme coéditeur, donc je sais pas pourquoi ce petit logo. Ce serait intéressant de demander à Emmanuel ou Mathieu Verdier, mais en tout cas voilà, il y a un petit logo Happy Baobab derrière aussi. C'est illustré par Olivier Moutoudraf, Olivier Moutou. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties qui vont durer entre 20 et 40 minutes. C'est un jeu qui est plutôt rapide. Et bah, c'est disponible à 26,95€ chez notre partenaire Philibert. Alors, qu'est-ce que c'est Ganymède ? Donc, Ganymède, c'est le nom d'une des lunes de Jupiter. Et en fait, dans le jeu Ganymède, il va falloir envoyer des petits colons sur cette lune, parce que sur cette lune, il y a l'astroport en fait de départ pour aller coloniser des galaxies lointaines. Donc le but c'est d'emmener des colons sur cette lune pour les.
Je te coupe là, ça me rappelle un truc. C'est des colons ou c'est des esclaves?
C'est des colons.
C'est sûr, hein, c'est vérifié.
Ouais, c'est vérifié. C'est écrit dans la règle. Okay. C'est des colons.
Ouais, je reconnais d'autres des comme ça.
Rien à voir avec des esclaves, hein.
Et puis. Non, je fais de l'autopromo en même temps pour la nouvelle chronique, tu sais.
Ah, d'accord.
Sortant le grand jeu.
Par rapport à Puerto Rico, tout à fait. Non, mais là, surtout qu'ils vont vers des planètes lointaines et on les voit pas arriver. On les voit partir, mais on les voit pas spécialement arriver. Donc, on sait pas s'ils vont maltraiter des esclaves aliens plus tard. Donc ils doivent partir de cette lune. En fait, on doit faire partir des vaisseaux de cette lune de Jupiter. Et pour faire partir ces vaisseaux, il faut les charger avec des petits colons. Donc, ils sont des petites meeples, des petits meeples qui ont différentes couleurs. Il y en a des bleus, des rouges, des jaunes, des violets. Et puis, thématiquement, ils expliquent que chaque couleur correspond à un métier, en fait. Les bleus, c'est plutôt du marketing, communication. Les rouges, c'est les commandants. Les jaunes, c'est plutôt les ingénieurs. Et les violets, c'est plutôt les médecins et les travailleurs sociaux. Donc
j'adore les bleus, je vois pas trop ce qu'ils viennent foutre là en fait, mais bon.
Ah bah le marketing hein, c'est important hein, c'est pour avoir
visiblement.
Pour avoir de l'argent pour envoyer des fusées, faut regarde Elon Musk, il est très fort en marketing.
Ouais, mais quand on les envoie eux dans l'espace, je trouve ça un peu bizarre, mais passons.
Ah bah après c'est une fois sur place, faut faire des belles photos et envoyer ça à la Terre.
Ah voilà, OK.
Voilà, donc ces petits colons, va falloir les envoyer dans des navettes et pour ça, bah ils vont devoir transiter de la Terre vers Mars. Et de Mars vers les vaisseaux au départ de Ganymède. Voilà, il y a différents vaisseaux qui vont partir. Le jeu s'arrêtant quand quelqu'un a réussi à expédier 4 vaisseaux. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui est assez rapide.
Oui, mais du coup, enfin, le jeu s'arrête quand on a expédié 4 vaisseaux, mais ça veut pas dire qu'on a gagné.
Ça veut pas dire qu'on a gagné, tout à fait. C'est un peu comme à Splendor, le jeu s'arrête quand quelqu'un atteint les 15 points, mais comme on termine le tour, comme il peut y avoir d'autres paramètres, c'est pas forcément celui qui met fin à la partie, qui gagne la partie. Donc comment ça va se passer? Pour expliquer rapidement, donc c'est un jeu plutôt de stratégie et d'optimisation hein. C'est un jeu où chaque joueur va avoir un petit plateau personnel sur lequel justement on va voir symboliser la Terre, Mars et Ganymède avec les deux emplacements de vaisseaux. Les vaisseaux sont en fait des cartes qu'on va tirer qui ont des conditions on va dire de points de victoire assez différentes, voilà, qui rapportent des points de victoire en soit brut. Ça peut rapporter 4 points de victoire brut, soit qui vont rapporter des points de victoire en fonction des éléments qu'on aura acquis pendant la partie. Et surtout, il y a un emplacement de vaisseau où on va devoir mettre des meeples de la même couleur, 3 meeples de la même couleur pour que le vaisseau parte. Et il y a un emplacement de vaisseau où au contraire, il va falloir mettre un meeple de chaque couleur, donc des 4 couleurs présentes pour que le vaisseau parte. Donc les deux emplacements ont aussi un rôle mécanique, on va dire, par rapport aux meeples qu'il faut mettre sur les vaisseaux pour qu'ils puissent décoller. Donc on a la Terre, Mars et Ganymède avec ces deux emplacements de vaisseaux. Ça c'est sur notre plateau perso. Sur notre plateau perso, on a aussi une petite piste de réputation. Donc bah la com c'est ça aussi hein, ça ouais. permettra d'avoir une réputation plus ou moins importante. Donc la piste de réputation c'est une piste où on va pouvoir monter, voilà, il y a 12 cases réputation et en fonction de là où on est à la fin, ça va nous rapporter des points de victoire supplémentaires aussi. Et puis il y a des petits emplacements sur lesquels on passe qui vont pouvoir nous permettre de déclencher une petite action de bonus. Et si vraiment on arrive au bout de la piste, on a un gros bonus qui nous permet d'expédier un vaisseau gratuitement. Peu importe s'il y a des colons ou pas dessus, le vaisseau part. Mmh. Et voilà, ce qu'on a sur le plateau personnel, il y a le rappel des actions aussi, qu'on peut faire à chaque tour. Et il y a les petits emplacements pour mettre les tuiles et les cartes. Alors je vais expliquer à quoi ça correspond. Mais ça, c'est notre plateau personnel. Et donc au milieu de la table, un peu à la manière de Splendor ou de Century, on va voir différentes cartes. Qui seront communes à tous les joueurs et dans lesquelles on va pouvoir aller récupérer ces cartes et servir à son tour de jeu. C'est une des actions possibles. Et sur ces cartes, bah il y a des actions qu'on va pouvoir faire. Alors, il y a
ce que tu précises pas, c'est que enfin on se sert mais il faut remplir des conditions quand même pour se servir.
Tout à fait, on peut pas prendre n'importe quelle carte. Alors déjà, il y a un premier niveau il y a plusieurs types d'éléments qu'on peut prendre au milieu il y a les tuiles déjà, les tuiles d'action de base. Donc là, il n'y a pas de condition pour les prendre. C'est des tuiles sur lesquelles on va avoir des actions assez basiques du type prendre un colon de telle couleur qu'on va mettre sur la terre. Parce qu'il faut savoir que sur la terre, il n'y a rien au départ. Et donc, il va falloir déjà recruter, on va dire, des colons sur terre avant de les expédier vers Mars et vers Ganymède. C'est un jeu qui va jouer en plusieurs étapes. Donc, on a des tuiles de base qui vont nous permettre de récupérer des colons sur Terre, de les recruter, en fait, et de faire des actions de base aussi. Donc, il y a différentes actions de base que je vais expliquer. Ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est que le jeu est assez simple dans ses règles, puisque à son tour de jeu, le joueur a une action possible parmi trois. Ces trois actions sont relativement simples. Donc la première, c'est prendre une tuile, c'est ce que j'expliquais, les tuiles de base qui vont permettre de recruter des meeples essentiellement. Il y a la deuxième action qui va permettre de prendre des cartes. Donc il y a deux types de cartes. Il y a un type de carte où il y a la Terre qui est représentée. Donc ça va nous servir en fait à faire transiter des colons de la Terre vers Mars. Et il y a des types de cartes où il y a Mars sur le dos qui va plutôt nous permettre de transiter des colons de Mars vers Ganymède, vers les vaisseaux sur Ganymède. Donc la deuxième action possible, c'est prendre une carte, soit une carte Terre, soit une carte Mars. La troisième action possible, c'est plus une action qui va nous permettre de se débloquer quand on est un peu bloqué. Les différentes tuiles qu'on prend, donc la première action possible, prendre des tuiles, on n'a que trois emplacements de tuiles. Donc on pourra pas en prendre plus que trois. Si on en prend une quatrième, en fait, il va falloir défausser une tuile gratuitement et en récupérer une pour l'utiliser. Mais on peut aussi nettoyer cette zone-là, c'est-à-dire défausser une à trois tuiles, vraiment les défausser sans en reprendre d'autres, pour faire jusqu'à trois actions de base. D'accord ? Si on en défausse deux, ben on va faire deux actions de base. Si on en défausse trois, trois. Si on en défausse une. Donc ces actions de base, c'est les actions de base qu'on va pouvoir faire à plusieurs occasions aussi, notamment sur la piste de réputation. On peut débloquer des actions de base. Donc l'action de base, c'est recruter un meeple de la couleur de son choix. Déplacer un meeple soit de la Terre vers Mars, soit de Mars vers un vaisseau, soit d'un vaisseau à l'autre. C'est aussi un déplacement qui est possible. Ensuite, on va pouvoir adapter aussi un meeple, c'est-à-dire changer sa couleur. Une adaptation, c'est bah, j'ai un meeple jaune sur Mars, ça va pas avec ce que je veux, je peux l'échanger contre un meeple violet, par exemple. Donc en fait, voilà, on adapte son métier en fait aux besoins qu'on a.
On l'envoie en formation.
Tout à fait. Et une autre action de base, bah, c'est de, enfin, une des autres actions de base, ça va être d'avancer sur la fameuse piste de réputation, hein, puisque ça va nous rapporter des points à la fin et ça va débloquer d'autres actions de base potentiellement. Et enfin, la dernière action de base, ça va être de piocher des vaisseaux, parce qu'il faut savoir qu'on commence avec deux vaisseaux. En fait, sur les emplacements de Ganymède, mais dès qu'on en envoie un, on va pouvoir le remplacer par un autre. Et en fait, on peut piocher des vaisseaux pour se faire une main, pour avoir plus de choix en fait, voilà, dans les vaisseaux qu'on va replacer, parce que en fait, il y a différents, comme je le disais, il y a différentes façons de scorer sur les vaisseaux, et du coup, bah, on peut établir des stratégies en fonction du scoring qu'on veut faire. Donc, c'est bien d'avoir un peu une main et un peu du choix dans les vaisseaux qu'on veut placer.
Okay.
Voilà, donc c'est les trois actions de base qui sont assez simples. Prendre une tuile, prendre une carte ou défausser des tuiles pour faire des actions de base. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les tuiles déjà, les tuiles et les cartes, hein, dans tous les cas, ils ont un petit symbole et une petite couleur. Et en fait, il va y avoir tout un principe de combo. C'est-à-dire que si je prends une tuile avec un petit symbole rouge, je vais faire l'action qu'il y a dessus. Par exemple, recruter un meeple rouge. Je le prends. Si, au tour d'après, je reprends une tuile avec ce symbole rouge, en fait, comme j'aurai deux tuiles avec le symbole rouge dans ma partie où je peux mettre mes tuiles, bah, le pouvoir que je vais prendre, je vais l'effectuer deux fois. Et en fait, voilà, on peut effectuer comme ça un pouvoir de tuile jusqu'à trois fois si j'arrive à avoir trois tuiles de la même couleur. Donc on peut multiplier l'effet si on arrive à récupérer des tuiles de la même couleur. Alors bien sûr, les tuiles de la même couleur vont être plutôt orientées vers les mêmes genres de capacités. Donc par exemple, les tuiles rouges vont majoritairement récupérer des colons rouges. Donc c'est aussi un choix voilà, de pas varier la couleur. Ça peut être assez similaire dans les actions qu'on va pouvoir faire, même s'il y a un peu de variété. Et bien sûr, on est dépendant de ce que font les joueurs avant nous. Bien sûr, on a pris une tuile rouge en espérant prendre une tuile rouge sur le tour d'après. Mais si on joue à 4, par exemple, il y a 3 joueurs qui ont joué avant qu'on rejoue. Donc, s'il y avait une tuile rouge dans les 4 tuiles disponibles, en fait, il y a une pioche, il y a 4 tuiles disponibles, et à chaque fois que quelqu'un en prend une, on la remplace. C'est pas sûr qu'il y ait une tuile rouge qui soit encore disponible au tour d'après. Pour les cartes, c'est le même principe, mais c'est un petit peu plus restrictif. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les cartes, il y a des conditions. Par exemple, la carte Terre qui emmène des colons de la Terre vers Mars, on a une première action qui est le déplacement des colons. Par exemple, qui dit, bah là, vous déplacez un colon jaune et un colon rouge de la Terre vers Mars. Mais là, pour pouvoir la prendre, il faut respecter cette condition. C'est-à-dire que si j'ai pas un colon jaune et un colon rouge sur la planète Terre, je ne peux pas prendre cette carte.
Ouais, ça c'est un des éléments que je trouvais vraiment intéressant dans le jeu, parce qu'il y a beaucoup de contraintes en fait. Enfin,
c'est ça.
On y reviendra sûrement, mais il y a beaucoup de contraintes. Comme si on avait des contraintes un peu horizontales, verticales, et du coup un croisement qui fait que t'as une contrainte dans un sens, une contrainte dans l'autre, et ça devient assez difficile de jouer, mais pour établir une stratégie, c'est pas simple, quoi.
Faut
bien se creuser la tête,
faut anticiper pas mal, surtout que effectivement la carte qui va nous permettre de déplacer deux colons ou trois colons de la Terre vers Mars, on n'aura pas forcément l'équivalente avec exactement les mêmes couleurs de Mars vers Ganymède.
Ouais, évidemment.
En plus, bien sûr, les emplacements sur les planètes sont limités, donc on peut pas avoir plus de 6 meeples sur la planète Terre et plus de 5 meeples sur Mars. Quant aux vaisseaux, ils sont limités à leurs conditions. C'est-à-dire que si j'ai déjà un colon bleu, un colon rouge et un colon jaune sur celle où il faut des colons différents, je peux pas remettre un bleu. Je peux pas mettre un deuxième bleu, puisque le bleu, en fait, le slot du meeple bleu est déjà pris. Donc faut bien s'organiser, en fait, dans le transit des meeples. Ça peut être déjà, c'est limité en place, et sur les vaisseaux, c'est limité aux conditions qu'il faut pour faire décoller le vaisseau. Donc faut bien anticiper. Ces cartes, donc, qui sont à condition, bah, il y a la première action qui est ce déplacement, et il va souvent y avoir une deuxième action qui va être plutôt une action de base, soit faire un déplacement supplémentaire gratuit, soit recruter un meeple gratuit qui vient sur la Terre, etc. Donc les actions de base que j'ai citées, en fait, on les retrouve sur plusieurs éléments de jeu, dont ces cartes. Et là, c'est pareil. En fait, les cartes, elles ont toutes une couleur, soit bleu, soit rouge, soit jaune, soit violet, soit blanc. Blanc, c'est un peu la couleur neutre ou joker. Et bah, ces cartes, c'est pareil. On va les ranger, en fait, en dessous de notre plateau quand on les utilise. Et si on a déjà des cartes de cette couleur, le petit effet bonus qui est en bas, on va pouvoir le répéter autant de fois qu'on a de cartes. Donc si on a qu'une seule carte, la première fois qu'on prend une carte bleue, l'effet c'est une fois. Si je reprends une carte bleue avec un effet, l'effet de la nouvelle carte que j'ai prise, je vais pouvoir faire deux fois. Et ainsi de suite. Et donc ça va nous inciter, si on veut démultiplier les effets, à essayer de jouer un peu tout le temps la même couleur. Ça va vraiment si on commence à avoir quatre cartes, et que par exemple il y a un bonus sur la quatrième carte qu'on prend d'un déplacement gratuit, on va pouvoir faire 4 déplacements gratuits qui eux sont pas du tout contraints comme les déplacements des cartes, et donc on va pouvoir vachement accélérer notre partie.
Alors c'est vrai que d'ailleurs il y a des gens qui faisaient au moins au départ un parallèle avec Deus, alors qu'en fait c'est pas tout à fait le même principe, parce que dans Deus tu vas réactiver toute ta chaîne de cartes, tu réactives les pouvoirs
de
chaque cartes précédentes,
chacune des cartes, alors que là tu actives la dernière carte, mais le nombre de fois que t'as les cartes de la couleur. Alors par contre, effectivement, ça donnerait vachement envie de jouer qu'un seul type de carte pour vraiment multiplier ses effets. Mais il y a un autre bonus qui est plus intéressant encore, enfin ça dépend de comment on joue, mais si on arrive à avoir une carte de chaque couleur, donc il y a 5 couleurs, à chaque série en fait de 5 cartes, on peut aussi faire partir un vaisseau gratuitement. Sans qu'il y ait de colons dessus, le vaisseau, on le fait partir, il est sauvegardé, il nous rapportera des points de victoire à la fin. Comme c'est le même bonus que quand on arrive à finir la piste de réputation. Donc ça, c'est un bonus qui est pas négligeable quand même, parce que y a certains certaines fois où c'est un peu compliqué d'avoir les bons meeples au bon moment, et puis c'est quand même une course, hein, comme c'est le premier qui en fait partir 4, faut optimiser vraiment tous ces recrutements et ces déplacements, parce que ça peut aller assez vite.
Ah, disons que c'est pas un jeu de course pure, mais il y a vraiment une dimension course, parce que tu peux rusher, quoi.
Tu peux vraiment rusher, surtout qu'il y a des vaisseaux qui rapportent un peu moins de points, mais qui vont offrir aussi des bonus. C'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux qui rapportent juste des points, ou qui rapportent des points en fonction des cartes ou des meeples, des symboles sur les cartes, ou des tuiles qu'on gardera à la fin de la partie. Donc, par exemple, il y a un vaisseau qui rapporte 2 points par tuile qu'on a à la fin de la partie, donc on peut avoir jusqu'à 3 tuiles en haut si on les défausse pas, donc ça rapporte 6 points. Mais il y a des vaisseaux qui vont rapporter moins de points, qui vont rapporter que 3 ou 4, mais qui vont permettre notamment de soit faire 2 déplacements gratuits, soit de recruter directement quand le vaisseau part, soit même il y a des vaisseaux encore plus forts qui rapportent moins de points, mais qui permettent de faire partir le vaisseau avec un meeple de moins dessus. Donc par exemple, un vaisseau comme ça, sur la case où il faut des meeples identiques, il en faut 3 identiques, avec 2 meeples de la même couleur, ce vaisseau il part. Donc il y a vraiment des stratégies qui peuvent jouer sur le rush, sur vraiment essayer d'expédier le plus vite possible pour éviter que les autres fassent beaucoup de points. Et au contraire, il y a des vaisseaux qui vont ramener des points en fonction de conditions, par exemple en fonction des cartes qu'on va prendre, des cartes Terre ou cartes Mars, il y a les symboles des meeples qu'on déplace, et il y a des vaisseaux qui vont faire des points en fonction des symboles de ces meeples. Si vous avez ça va rapporter 2 points par meeple de bleu par exemple qui sont symbolisés sur vos cartes. Donc ça va être des vaisseaux qui vont favoriser en fait la prise de cartes, essayer de prendre le plus de cartes possible pour faire le plus de points possible. Donc, ça va être des développements plus longs. Il y a des vaisseaux aussi qui vont faire des points par rapport à vos séries de cartes en bas. C'est à chaque série de 5 cartes en bas, ça va vous rapporter 6 points. Donc là, si vous arrivez à faire 2 séries de 5, par exemple, c'est des vaisseaux qui vont rapporter énormément de points.
Ouais, c'est...
j'ai joué encore samedi soir et ça a failli faire des vaisseaux à 12. En plus, la personne en avait 2. Donc ça peut faire beaucoup de points. Les vaisseaux font entre 3 et 12 points, c'est vraiment exceptionnel. Hein, mais la moyenne est plutôt à 5-6 points, quoi. Les vaisseaux nus qui rapportent juste des points sans bonus, ils rapportent 5 points. Les vaisseaux vraiment de base, ils rapportent 5 points. Donc voilà pour les règles du jeu, hein. Vous avez les règles, le principe de jeu. Alors l'histoire du jeu, parce que c'est un auteur donc coréen que je ne connaissais pas. A priori,
alors,
c'est...
moi je le connais.
Tu le connais?
Je le connais et je l'apprécie plutôt pas mal cet auteur, parce que bon, il a fait Sherlock 13 qui est pas mal connu en France, qui a eu son petit succès. Hein.
Ah ouais, c'est l'auteur de Sherlock 13.
Oui. Et c'est aussi l'auteur de Guildhall,
oui,
qui est un jeu qui a pas été traduit en France, en français. Enfin, il faut dire, il est mal parti le jeu quand même, parce qu'il a quand même des graphismes super moches. Et c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, un jeu de combo. D'ailleurs, il faut que j'y fasse jouer le pionfesseur à ce jeu. Je pense qu'il aimerait. Rien que pour ces deux jeux-là, je trouve que c'est un auteur qui arrive à trouver des choses quand même intéressantes. Assez minimaliste au final, parce que dans Guildhall il n'y a pas non plus grand chose, c'est pas non plus voilà. Et Sherlock 13 pour le coup, dans le jeu d'enquête entre guillemets, on est assez minimaliste,
ouais.
Quoi.
Non, effectivement, désolé, donc en jeux qui sont sortis en France en français, il y a Sherlock 13 effectivement, et il y a Kabuki dans la gamme mini chez Yellow.
Ouais, pour le coup c'est peut-être un de ceux qui a le moins marché dans la gamme mini. Bon, j'y ai jamais joué perso, mais je sais pas.
Mais à culpa, j'ai pas vu que c'était l'auteur de Sherlock 13, que j'apprécie aussi pas mal, hein, Sherlock 13. Voilà pour l'auteur. L'illustrateur, c'est aussi, pour le coup là, c'est son premier jeu édité, je pense. Hein, j'en avais pas entendu parler. Sur le style graphique, j'ai pas dit, mais c'est, moi j'aime beaucoup. C'est très jeu vidéo rétro, très polygonal. Voilà, on a vraiment,
ouais.
Un truc très très polygonal, avec, on voit en fait les triangles de un peu du maillage du maillage 3D,
oui, ça
potentiel
fait,
quoi.
En fait, ça s'appelle du low poly. Voilà. Si je dis pas de bêtises.
Du low poly, tout à fait.
Donc c'est du, ouais, ça c'est du, oui, c'est du polygonal. Bah, c'est comme ça qu'on dit, non?
Ouais, ouais.
Pour les graphismes des premiers jeux 3D.
Ouais, c'est de la 3D polygonale, c'est ça.
Nintendo 64, hein, c'est ça. Hein.
Ouais, les. Ça fait assez Star Fox, enfin Lilith Wars.
Oui.
Si vous avez joué, c'est Lilith Wars sur Nintendo 64. C'est assez proche graphiquement. Moi, j'aime beaucoup. Donc Olivier Moutou, qui a priori a un autre jeu en préparation, en illustration, chez Sit Down, qui s'appelle Bad Bones, qui devrait sortir pour FSN, je pense, du coup, parce que il est à venir. Donc ouais, très très sympa au niveau des illustrations. L'édition globalement est très très chouette. Enfin, moi je trouve que l'édition est chouette. Le prix est plutôt contenu et on a quand même des meeples, des cartes, des tuiles, des petits plateaux personnels. Je trouve que voilà, on a pour son argent et le niveau de l'édition est vraiment sympa pour le coup.
T'as parlé pas mal de Splendor au début.
Oui.
C'est un jeu que je trouve vraiment dans cette veine-là, mais pour le coup plus complexe, un niveau au-dessus, quoi.
Ouais, tout à fait.
Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est dans la famille, on va dire, des jeux comme Splendor ou Century, qui sont des jeux en fait où il y a très peu d'actions possibles. Hein. Il y a un choix parmi trois actions. Il y a des cartes ou en tout cas des éléments communs au milieu que les gens vont pouvoir prendre. Donc il y a une petite un petit côté, il faut surveiller ce que les autres font pour éventuellement leur piquer la carte qu'ils voulaient prendre. Et voilà, on retrouve ça et on retrouve un jeu aussi relativement rapide.
On retrouve des sensations assez similaires effectivement sur tout ce que tu dis. C'est des, parce qu'on appelle un peu maintenant des jeux à moteur.
C'est ça. C'est des jeux très mécaniques finalement. Hein. C'est des jeux très mécaniques. Alors effectivement, moi je le trouve en termes de profondeur et de complexité au-dessus d'un Splendor ou d'un Century. Du fait déjà des combos. Hein, quand on prend des cartes de la même couleur, ça permet de faire des combos d'action. Donc ça c'est ça c'est assez intéressant. Et aussi ce côté, il va falloir recruter, puis déplacer d'un point à un autre, puis redéplacer d'un point à un autre. Il y a un côté anticipation qui est plus important et du coup qui rend on va dire la vision à moyen terme du jeu plus complexe qu'un Splendor ou qu'un Century, où on va vraiment on va plus regarder à un ou deux tours. Alors que là, il faut réfléchir quand même à plus que ça.
Alors, Century, je peux pas trop en parler parce que j'ai jamais joué. J'ai regardé une partie, mais j'ai pas joué. Splendor, avant, j'ai beaucoup joué et dans Splendor, en fait, tu vas tenter d'établir une stratégie dès le départ.
Oui, tu vas essayer de viser un noble.
Et en fait, tu vas t'y tenir quasiment du début à la fin. Alors que Ganymède, bon, j'ai joué que deux fois hein, Ganymède, mais Ganymède, en fait, il va falloir que tu vas regarder. On retrouve vraiment comme dans Splendor là, ces lignes, t'as différentes lignes, donc tu vas là, t'as les tickets, bon, ça compte pas vraiment, on va dire. C'est une autre voie stratégique en quelque sorte.
Bah, c'est la base en fait. Les tickets, ça te permet de recruter des colons, et sans ça, tu fais pas grand chose. La première étape, quoi.
Enfin, je veux dire, par rapport à mon comparatif à Splendor, ça rentre pas dedans. Tu vois, je compare vraiment ces lignes.
Niveau 1, niveau 2, niveau 3.
Niveau 1, ouais, ça, t'as 3 niveaux dans Splendor. Ici, c'est comme si t'en avais que 2, mais sauf que ça s'enchaîne vraiment. C'est-à-dire que faut que tu transportes les meeples vers le premier niveau, puis vers le deuxième niveau. Donc, il y a vraiment un enchaînement à voir. Dans Splendor, en fait, il faut viser cet enchaînement pour atteindre les cartes de niveau 2 puis 3. Sauf que voilà, c'est un enchaînement que tu vas avoir entre guillemets qu'une seule fois. En fait, tu vas accumuler des cartes de niveau 1, puis avec des cartes de niveau 2 pour atteindre la carte de niveau 3. Alors que dans Ganymède, t'as pas le même feeling, c'est tu vas devoir prendre des tickets au début pour commencer à te développer, puis une carte entre guillemets de niveau 1, pour faire le parallèle, puis une carte de niveau 2, et ensuite tu vas repartir.
Oui, c'est ça, c'est des cycles, c'est vraiment cyclique. Voilà. Là où Splendor, ça monte en puissance de plus en plus, là on va être sur quelque chose de plus cyclique, effectivement. On va devoir, à chaque fois qu'on envoie un vaisseau, un ou deux vaisseaux, on va devoir un peu réinitialiser, repartir du recrutement, et il y a vraiment quelque chose de plus cyclique, effectivement. Après, oui, effectivement, Splendor, on peut réfléchir à plus de tours que ça, mais effectivement, il y a ce côté moins linéaire, plus cyclique que linéaire. Effectivement, dans Splendor ou dans Century, on va avoir quelque chose de plus linéaire.
Alors, c'est plus cyclique dans dans Ganymede. Pour autant, c'est pas répétitif.
Non.
Et c'est quand même important de le noter parce qu'on pourrait tomber dans ce travers-là. Et en fait, ça l'est pas parce que tu développes quand même des choses. Donc plus tu vas vers la fin et plus tu vas potentiellement déclencher des combos et des coups puissants.
Tout à fait, parce que tu as récupéré des cartes, donc forcément si tu en récupères de la même couleur, ça va faire le petit combo. Et en plus, comme les cartes que tu as récupérées, tu les auras plus en face, tu peux pas refaire exactement le même cycle. C'est-à-dire que le cycle suivant, tu dois faire quelque chose de différent, voilà, te réadapter dans les meeples que tu recrutes et que tu envoies. Donc c'est assez bien, il y a une bonne rejouabilité en plus. Bah, les différents vaisseaux, les différents types de scoring sur les vaisseaux font aussi que la stratégie que tu vas adopter peut être assez différente d'une partie à l'autre ou même d'un cycle à l'autre de recrutement et de déplacement. Donc ça c'est vraiment cool. Après dans les mécaniques en elles-mêmes, il y a rien de super innovant, mais le jeu tourne parfaitement et est super agréable. Et le fait que ça se joue, honnêtement, les parties que j'ai faites à deux, ça se joue en même pas 30 minutes, quoi. À deux, c'est vraiment 20 minutes. C'est vraiment vraiment sympa. Après, on va retomber dans les mêmes peut-être petits défauts qu'il peut y avoir dans Splendor, c'est quand tu joues à quatre, il y a quand même une grosse dose d'opportunisme. Puisque tu peux pas anticiper de prendre une carte d'un tour à l'autre, quoi, en fonction de. T'as trois joueurs qui vont jouer avant toi.
Tu peux l'anticiper si tu sais que les joueurs ont pas les mêmes couleurs de bonhomme que toi au même endroit.
Tout à fait.
Parce que ça fait quand même, comme on disait, comme il y a plusieurs paramètres. Ben, typiquement, quand on regarde les personnages, il faut que t'aies la bonne couleur et au bon endroit. Et si possible, et des fois, il te faut plusieurs couleurs au même endroit. Donc, tu peux quand même voir à la table si ce genre de carte qui toi t'intéresse, par exemple, t'as un bleu et un rouge sur la terre, bah, si les autres n'en ont pas, ils risquent pas de te prendre la carte, quoi.
Tout à fait. Ça, je suis d'accord. Sur les cartes, on va dire les cartes de niveau 1, enfin les cartes Terre, les cartes Mars, tu peux un petit peu anticiper. Mais par exemple, sur les tickets, tu peux pas anticiper du tout. Ouais. Je peux pas dire je vais prendre que des rouges pour multiplier les effets. Ça, c'est vraiment de l'opportuniste. À deux, c'est plus le cas. Tu vois, si t'as deux tuiles d'une couleur, tu peux plus anticiper ce truc-là. Effectivement, c'est assez intéressant ce côté-là. Et à deux, c'est forcément beaucoup plus plus stratégique dans les parties que j'ai pu faire à deux. Tu peux anticiper et prévoir beaucoup plus de choses que dans des parties à quatre où il y a quand même beaucoup plus de changements dans les tickets, dans les cartes. Voilà, sur l'ergonomie, c'est très bien pensé, c'est vraiment efficace. Comme je le disais, l'édition est vraiment bien. Tout le jeu est très fluide, c'est vraiment très bien pensé, très propre à ce niveau-là. J'ai pas grand-chose à redire, moi je trouve ça très beau travail d'édition et puis très mécanique bien huilée. Je pense qu'il y a eu pas mal de playtests et que au final il y a pas vraiment de bugs ou de situations bloquantes ou de choses un peu farfelues. En tout cas, j'ai pas fait encore 15 parties, hein. Je suis à 4-5, mais j'ai l'impression que tout ça tourne quand même très bien. Sur l'adéquation mécanique et thème, comme on l'a dit, et comme les jeux comme Splendor ou Century qui sont très mécaniques, finalement le thème peut paraître un peu plaqué, hein, mais globalement je le trouve quand même beaucoup moins plaqué et moins froid que dans Splendor par exemple, où Splendor en fait le thème il est vraiment très très accessoire, on le ressent même pas le thème, on n'a pas l'impression qu'on est en train de vendre des pierres précieuses. Là l'adéquation mécanique thème et quand même, en tout cas, à moi me parle plus. Hein, j'ai l'impression d'envoyer des colons, de la Terre vers Mars, de Mars vers les vaisseaux.
Il y a un effet graphique en fait qui joue, je trouve, dans le jeu. Il y a vraiment, graphique et manipulation, matériel, c'est-à-dire que c'est ça. Tu vas vraiment déplacer ton bonhomme d'un endroit à un autre.
Tu recrutes les bonhommes dans une réserve, tu les mets sur la planète Terre, tu les déplaces.
Du coup, ça, je pense que ça aide un petit peu à faire que le thème se ressent un peu mieux. Puis quand on voit ta navette, tu enlèves la carte. Il y a vraiment, il y a un rapport manipulation qui fait que ça marche mieux. Je suis d'accord. Après,
ça pourrait être autre chose. Tu aurais pu envoyer des gens traverser je sais pas quelle mer et puis t'arrêter sur je sais pas
quel océan et arriver sur Puerto Rico comme ça ça marche aussi.
Tout à fait. Mais ouais voilà, je suis plus bah je suis plus aussi sensible je pense au thème du voyage spatial que du marchandage de pierres précieuses quoi. Et Bus Century pareil voilà de les marchands d'épices bon bah on le ressent quand même beaucoup moins je pense hein. Effectivement il y a des dans Century c'est encore pire parce que dans Splendor on a les jetons de poker, la manipulation, bon c'est précieux, c'est même si on le ressent pas trop. Dans Century bah les épices c'est des cubes en bois donc c'est encore encore un niveau au-dessus on va dire dans l'abstrait. Alors qu'effectivement, Ganymède, c'est des petits meeples déjà, donc les petits colons, c'est des petits meeples, hein, ça ressemble à des petits bonhommes. Et voilà, comme tu disais, le fait de manipuler, de les déplacer d'une planète à l'autre, le thème est quand même plus présent et moins froid que dans Century ou dans Splendor. Ouais. Au niveau des interactions, donc bah on en a déjà parlé, hein, mais il n'y a pas d'affrontement direct, ça va être exactement le même niveau d'interaction que dans un Century ou dans un Splendor.
À part piquer les tickets, tu vas pas.
Voilà, au mieux, tu peux prendre des cartes, ou alors si t'as vraiment les mêmes, si tu pars sur les mêmes couleurs de meeple, là, tu peux être plus embêtant s'il y a qu'une carte qui permet de les envoyer, ces meeples-là en particulier. Il peut y avoir un peu de blocage, mais honnêtement, les parties que j'ai faites ont levé encore assez peu la tête pour regarder ce que les autres avaient ou les autres étaient en train de faire, quoi. Donc l'interaction est quand même relativement faible. Pour ceux qui aiment bien l'interaction forte, vous n'allez pas en avoir beaucoup dans ce jeu-là.
Oui, ou alors il faut faire 20-30 parties, savoir un peu le genre de cartes qui existent dans le jeu.
Faut vraiment anticiper.
Elles sont déjà passées, machin, ouais.
Au niveau du type de joueur à qui ça s'adresse, je trouve que c'est assez il est dans une zone assez assez favorable puisque comme on l'a dit c'est du Splendor Century like mais avec un niveau au-dessus. Donc pour les familles qui voudraient avoir une dose de réflexion ou de complexité un peu supérieure après avoir un peu poncer les Century ou les Splendor, il offre ça, il offre ce challenge un petit peu au-dessus. Et puis en même temps, ça en fait un très bon filler pour des gamers un peu plus assidus parce que 20-30 minutes entre deux gros jeux, ça sort, c'est agréable, c'est fluide, ça se joue bien. Il est assez tout public en fait. Il va s'adresser, il est pas sur des familles avec des enfants jeunes ou voilà. Il est quand même à partir de 14 ans. Hein.
Oui, après c'est 14 ans, mais je suis pas sûr que ce soit par rapport aux mécaniques, etc. Hein. Il y a sûrement une histoire encore de distribution aux États-Unis visée et pas s'embêter avec
l'espèce
de loi ou je sais pas quoi qui...
Oui, clairement à 10-12 ans ça passe hein, même 10 ans pour quelqu'un qui un enfant qui joue un peu passe. Mais voilà, c'est plutôt tout public, c'est des règles assez simples, il y a une bonne profondeur mais on peut y jouer moi je sais que je l'apprécie plutôt pas mal et que des familles qui commencent à jouer beaucoup à des jeux de société qui aimeraient passer juste un cran au-dessus par rapport à du Splendor, c'est plutôt bien adapté.
Oui, c'est clairement le genre de jeu dans cette catégorie qu'on appelle aujourd'hui familial plus quoi.
Tout à fait.
On est bien dedans.
Tout à fait, ouais.
Il y a une extension qui est en préparation d'ores et déjà. Survivor French a commencé à teaser un petit peu sur Twitter en particulier. Enfin, je traite plutôt sur Twitter que sur Facebook, mais j'imagine qu'il y a aussi eu quelques teasings sur Facebook. Il y a une extension en préparation. On n'en sait pas grand chose. Ils avaient tweeté une photo qui représentait le Sénat là dans Star Wars. Alors, est-ce qu'il va y avoir je sais pas, voilà. va-t'en savoir quelque chose avec ça. Elle est prévue je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble pour PEL l'année prochaine, donc c'est pas tout de suite quand même.
D'accord. En fait, je suis complètement à la ramasse en ce moment. Hein. J'ai pas du tout vu passer.
Ouais, je sais pas. J'essaierai de retrouver le fameux tweet là avec la photo et puis de le mettre dans le billet. Allez, je m'engage à retrouver le
tweet. Oui, exactement. Je l'ai retrouvé.
À te la retrouver.
Ouais, je te l'enverrai.
C'est plus facile.
Test non-stop de l'extension de Ganymède, ça va être vraiment bien. Mais genre vraiment bien. Effectivement. Voilà. Alors peut-être que j'ai eu passé, mais ça m'est sorti de la tête. Et donc, extension en préparation pour Ganymède. Merci Cyrus.
Mais de rien.
Bah voilà, l'avis final, je pense que vous l'avez compris, ça, bah, même s'il apporte pas de révolution mécanique, je le trouve très agréable à jouer, très fluide, très très intéressant au niveau des challenges qu'il propose. Une très très bonne alternative aux Splendor-like qu'on a pu voir ces dernières années, avec une thématique qui moi me parle plus et qui je trouve est plus présente. Mmh. Voilà, un beau contenu pour un prix qui lui est plutôt contenu, hein. On est en dessous de 30€, on est à 27€ chez Philibert. Pour ce qu'il y a dans la boîte et pour la qualité de l'édition, c'est plutôt raisonnable. Voilà pour mon avis. Je sais que tu l'as testé aussi, Cyrus. T'en penses quoi, toi ?
Oui, j'ai fait que deux parties, hein, mais j'avais fait une partie à Cannes, un peu fatigué. Moi, j'avais bien apprécié ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein, c'est ce principe de double contrainte. Je trouve qu'il met vraiment les neurones en ébullition, tu vois. Ça donne vraiment, ça donne une espèce de problème à résoudre, qui fait que même s'il y a pas forcément beaucoup d'interactions, ben tu t'apprécies le jeu pour essayer de résoudre un peu ce problème qui alors tu disais c'est pas très innovant comme jeu, mais ce principe-là de déplacement des personnages et d'avoir la bonne carte au bon moment machin, je suis pas sûr que ce soit, oui je suis d'accord, c'est pas super novateur, mais c'est une sensation de jeu que je trouve assez intéressante. Après les autres aspects sont peut-être un peu moins pas innovants encore une fois, hein, mais bon, peut-être un peu moins originaux, le principe du bah il faut avoir des cartes différentes, toi ça te fait décoller un truc, effectivement c'est super intéressant, et à l'inverse, avoir plein de cartes identiques du coup te fait faire des effets de plus en plus répétés, pas fort en fait, j'irais plutôt répété parce que
oui, c'est répété.
Parce que des fois, ça peut être un effet qui est pas forcément non plus intéressant. Pile, tu vois, au moment où tu voudrais l'activer, quoi. Enfin bref.
Oui, un moment recruter 5 ou 6 colons d'un coup, c'est pas forcément intéressant si t'en as déjà 3 sur la planète.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Comme t'as que 6 places, ça peut ne pas être rentable au bon moment, quoi.
C'est exactement ça. Bref, moi je trouve ça pas mal. Moi, j'aime beaucoup Splendor. J'avoue que j'ai pas acheté Ganymède parce que pour le coup, je préfère un peu les purs de Splendor. Mais bon, on me propose une partie de Ganymède. Oui, je vais jouer quoi. Si je l'ai pas acheté, c'est en gros parce que pour moi, ça fait pas doublon. Hein, mais bon, tu vois, je préfère vraiment sélectionner et pas avoir deux jeux qui quand même malgré tout se ressemblent quoi dans certaines sensations. Voilà.
Ouais.
Mais ouais, je trouve que c'est une bonne pioche en tout cas de Survivor French. Et puis, alors, ils ont fait un tout premier tirage, je crois que c'est 3000 exemplaires, c'était assez petit. Hein.
Ah, d'accord.
Ils sont tombés en rupture, donc je sais pas, là, il est dispo chez Philibert.
Il est dispo chez Philibert, il était dispo aujourd'hui. J'ai regardé aujourd'hui.
Ah, ils avaient dû quand même réussir à relancer une prod, et c'est peut-être bien produit en Allemagne ou en Europe, enfin, en tout cas, genre en Pologne, je sais pas où. Ce qui fait qu'ils ont quand même réussi à se refournir assez vite, je crois. Mais ils étaient tombés, il me semble, en rupture, et puis ils devaient recevoir, genre, la semaine d'après, un truc comme ça. Mais ça va, ils ont pas trop mal géré, quand même, il me semble. Il me semble que c'était une histoire comme ça, quoi.
Made in Germany, ouais, tout à fait.
Ah, c'est ça, alors. Ouais. Bon, c'est peut-être sûrement Ludofact.
Ok, je vous refais un petit coup la fiche signalétique. Donc, Ganymede, c'est un jeu de Hope S. Wang, édité par Sorryware French, illustré par Olivier Moutou, pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. On l'a dit, ça peut être joué sûrement un peu plus tôt pour des enfants qui ont l'habitude.
Oui,
pour des parties de 20 à 40 minutes, donc c'est assez rapide. Et c'est disponible chez Philibert à partir de 26,95€. Voilà pour Ganymede.
Ben merci.
On passe à Affinity.
Allez, le deuxième de la soirée, c'est parti. Alors Affinity, c'est un jeu de Roméo Aignon, Dabi Bernard, Clément Leclerc et Jean-Philippe Sahu. Ah, ça fait du monde, hein. Ça doit pas faire beaucoup de royalties par personne, ça, mais bon. c'est un jeu qui est édité par Gameflow. Alors Gameflow, c'est un éditeur qui, il me semble, n'a fait qu'un seul jeu jusque-là, c'est Chimère.
Je crois que c'est une bonne partie des auteurs que t'as cités aussi.
Oui.
Qui sont derrière cet éditeur.
C'est ça, je crois que Gameflow, c'est Roméo Aignon et Clément Leclerc, qui était également les auteurs de Chimère.
De Chimère, ouais.
Voilà. Donc c'est distribué par BlackRock. C'est un jeu qui est illustré par Emma Ferraro, qui est également à son premier jeu, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un jeu annoncé pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans, des parties de 30 minutes. Oui, 20-30 minutes, je crois que j'ai trouvé 30 minutes d'un côté et
une 20 de l'autre.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est 30 minutes chez Philibert, 20 minutes sur la boîte.
C'est environ 30 minutes, quoi.
Oui, c'est sur le nombre de joueurs, mais voilà, c'est ça. Et c'est une vingtaine d'euros chez Philibert. Alors, le principe d'Affinity, c'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir tenter de faire deviner une émotion qui nous a été distribuée au moyen d'une phrase qu'on va construire. En gros, ça se limite vraiment à ça. Pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est dans le jeu, en fait, on a des paquets de cartes. Il y a des débuts de phrases, des milieux de phrases, des fins de phrases. On va distribuer 3 de chacune de ces cartes à chaque joueur. Et on va distribuer également une carte sur laquelle est représentée une émotion. Il y en a 4 dans le jeu. Il y a beau, fun, glauque et triste. Mmh. Donc on va se voir donc attribuer une de ces émotions de façon aléatoire. Il va falloir la faire deviner aux autres joueurs autour de la table. Voilà, c'est on ne peut plus simple. Si on gagne, on avance le jeton d'harmonie sur la piste. Et si on perd, enfin si on rate en tout cas, faire deviner
si les autres ne trouvent pas, ouais. Voilà,
on avance le pion de la discorde sur cette même piste d'harmonie. Et en fait, c'est un système où chaque jeton est à un bout. Un des deux bouts de la piste. Normalement, les jetons vont potentiellement se croiser. Si l'harmonie arrive dans le territoire de la discorde, on gagne. Et si la discorde arrive dans le territoire de l'harmonie, on perd. Sachant d'ailleurs, il y a un truc un peu bizarre dans le jeu, c'est qu'on peut gagner et perdre. Ouais, et en gros, parce qu'on va finir le tour de jeu, donc tout le monde, tout le monde en même temps construit sa phrase pour faire deviner son émotion. Ensuite, hein, on va montrer les phrases une après l'autre, discuter, se mettre d'accord pour dire est-ce que c'est beau, est-ce que c'est fun, par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, donc on résout et on vérifie si c'est bon, si c'est mauvais. Et donc, on fait toujours le tour complet, hein. On fait toujours la résolution de toutes les cartes de tout le monde, ce qui fait qu'effectivement on peut arriver à la fin du tour complet sur l'harmonie dans le Discord et la Discord dans l'harmonie. Mmh. Voilà. Donc ils disent dans les règles, quand c'est comme ça, vous n'avez ni gagné ni perdu, faut recommencer. C'est les égalités gentilles, tu vois. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, on construit des phrases, voilà. Ben alors, ce qui est nouveau là-dedans, c'est le fait d'associer ça à des émotions. Alors évidemment, on peut tout de suite comparer le jeu à Cards Against Humanity, c'est le premier du genre, qui a été ensuite plagié honteusement par Blanc Manger Coco, Limite Limite et sûrement toute une vague d'autres jeux dans plein d'autres langues. Et on peut aussi aller rapprocher ça de Feelings, qui est en tout cas pour moi le premier jeu, je crois, que je connais qui parle d'émotion. Hein, d'ailleurs, du coup, il a eu le champ libre, hein, pour trouver son titre, Feelings, qui lui, pour le coup, est pas basé sur le même genre de mécanique. Et je trouve est assez lourd comme jeu, en fait. Ça fait pas vraiment jeu. Je sais pas si t'as l'occasion de jouer, toi, à Feelings.
Non, mais j'en ai entendu pas mal parler. Effectivement, c'est plus un jeu de discussion, en fait.
Oui. En fait, à la base, c'est même été créé comme un outil, Feelings. Un outil pour les pédopsychiatres, je crois. Il me semble qu'un des auteurs doit être pédopsychiatre ou quelque chose comme ça. Ou psychologue, enfin bref.
C'est l'auteur de Dixit, si je me trompe pas.
Il y a Jean-Louis Roubira qui est dedans, ouais, mais il y a un co-auteur, et je crois que c'est plus toi, enfin bref, je vais m'enliser, je suis en train de m'enliser là, je sais plus quel des deux doit être pédopsychiatre ou quelque chose comme ça, bref. Voilà, donc du coup, on est à la croix.
Pour te répondre, c'est, le co-auteur, c'est Vincent Bidot, qui est effectivement infirmier en pédopsychiatrie.
Ah, d'accord, ok. Donc il n'est pas pédopsychiatre, il est infirmier
en pédopsychiatrie, okay, tout à fait.
Je savais que je ne devais pas être tout à fait juste. Je savais qu'il y avait un truc un peu bizarre dans l'histoire. Ouais.
Alors Jean-Louis Roubira, après vérification, est lui-même pédopsychiatre. Donc a priori, je ne sais pas s'il pratique encore, mais en tout cas, il a été ou il est pédopsychiatre, parce que j'ai retrouvé une interview et au moment de Dixit, il était déjà à mi-temps, mais voilà, il a une formation de pédopsychiatre en tout cas.
Ok, très bien, merci pour ces précisions.
De rien.
Bref, du coup, j'en étais où? Oui, donc bah Affinity, finalement, c'est un peu la rencontre entre Card Against Humanity et Phoenix. Et du coup, l'alchimie, je la trouve plutôt pas mal. Alors, pourquoi? Déjà, c'est un jeu qui va provoquer des discussions, tout comme Phoenix tente de les provoquer, mais peut-être de façon un peu plus forcée, tu vois. Mmh. Et ben en fait, cette mécanique qui est ultra simple de construction de phrase, donc tu vas construire ta phrase, t'as l'émotion, donc admettons, t'as l'émotion triste à faire deviner. Alors t'as un choix parmi, t'as un choix limité, hein, évidemment. Du coup, t'as trois débuts de phrase, trois milieux de phrase, trois fins de phrase. Donc, bah, il arrive que t'aies pas les cartes qu'il faut. Ça, c'est malheureusement c'est la loi du hasard.
Ouais.
Enfin, ou en tout cas, bon, que t'aies pas l'impression.
Globalement, tu peux construire une phrase. Après, c'est peut-être compliqué de faire deviner ton sentiment, mais a priori, tu pourras faire une phrase.
Ah bah oui, c'est ça. Techniquement, tu peux construire une phrase. Ça y a pas de souci. On te donne des débuts de phrase, des milieux de phrase et des fins de phrase. Il faut que tu puisses trois cartes, donc c'est bon. Il y a pas de souci. Techniquement, tu peux. C'est juste que, enfin, tu n'auras pas forcément la phrase que tu veux faire, évidemment.
C'est ça.
Sinon, ce sera un petit peu trop facile. Hein, faut bien le dire aussi. Et donc bref, donc tu vas construire ta phrase avec les moyens du bord, on va dire, et donc au bout d'un moment elle va être exposée aux autres joueurs. Alors il y a un petit truc malin du coup dans le jeu qui est que c'est pas toi qui va lire ta phrase, parce que sinon tu pourrais donner le ton qui va avec, évidemment. Donc
tu le passes à ton voisin.
Exactement. Ton voisin va lire la phrase. Toi, t'es censé être muet, hein, tout le long, hein, voilà, et pas
poker face. Tout ça.
Poker face. Ouais, alors, c'est pas toujours évident, parce que évidemment, on a bien compris que quand il y avait fun et glauque dans le jeu, il hein, y a des phrases qui vont prêter à rire.
En fonction des gens qu'il y a autour de la table aussi.
Et donc, bref, poker face. Un des joueurs va lire ta phrase et les autres vont discuter, en fait, simplement. En fait, c'est tout con, mais tu vas faire le tour de table, instinctivement, toi, tu vas faire le tour de table, tu vas dire, bah alors, toi, t'en penses quoi? Tu trouves que c'est plutôt beau? Tu trouves que c'est plutôt glauque? Et chacun va donner son sentiment comme ça. Mmh. Et ce qui est assez marrant, c'est que des fois, tu vois apparaître des espèces de petites histoires. C'est-à-dire qu'en fait, partant d'une phrase où il n'y a pas grand-chose, hein, je peux faire un exemple rapide, par exemple.
Je tire des phrases,
je tire des cartes. J'ai une gamine des rues rêve d'aller sur la lune dans un bosquet en fleurs. Bon, bah tu peux te dire
c'est beau.
Ouais, c'est plutôt beau. Après, il y en a un qui va dire non, mais attends, c'est une gamine des rues, tu vois, c'est un peu c'est bizarre quand même, c'est un peu triste.
Elle rêve dans la rue.
Voilà, dans un bosquet en fleurs, tu vois, je veux dire, elle est pas dans une maison, c'est... Donc tu te demandes du coup si c'est pas triste, si c'est pas un peu glauque, tu vois. Donc et puis tu vas dire, bon alors lui, c'est lui qui a fait la phrase, est-ce que pour lui ce serait plutôt beau, est-ce que ce serait plutôt glauque? Et puis tu sais bien que quand même le mec il avait pas forcément toutes les cartes en main, donc ça rajoute une petite suspicion, on va dire. Et ce qui est assez drôle, c'est que, enfin drôle, chaque bout de phrase, je trouve, a souvent une petite connotation sur l'une des quatre émotions. Enfin, c'est pas tant qu'elles ont une connotation sur une des quatre émotions, c'est que déjà rien qu'un bout de phrase, il peut avoir une connotation sur plusieurs. Du coup, l'idée quelque part, c'est d'essayer de trouver ce qui est logique, c'est-à-dire que en gros, que chaque bout de phrase additionné, ben, soit plutôt beau ou triste.
Ouais, faut déjà essayer de faire du positif ou du négatif, mais après, il y a la subtilité entre fun et beau et puis triste et glauque, quoi.
Ouais. Alors ça c'est ce qui apparaît assez vite dans le jeu. On se dit, je vais assez facilement hésiter entre du beau fun ou du glauque triste. Et en fait, quand tu joues, tu te rends compte que c'est pas toujours si binaire que ça. Parce que justement, quand c'est fun, en général, c'est quelque chose de drôle. Mmh. Donc drôle n'étant pas une émotion du jeu. Et du coup, en fait, quand c'est drôle, souvent c'est soit glauque, soit fun. Mmh. Et quand c'est beau, c'est pas si évident que ça que ce soit une belle phrase. Ça peut être une belle phrase, mais elle peut être mélancolique. Du coup, ça peut être beau ou triste. Et donc au final, tu te rends compte que bah, les termes, ils ont été quand même super bien choisis, parce que tu te retrouves à éviter entre beau fun, entre fun glauque, entre glauque triste ou entre beau triste. Et là, en gros, bah, je vous ai presque tous fait, quoi. Je vous ai juste pas fait beau glauque parce qu'en général, ça colle pas, et fun triste en général non plus, ça colle pas.
Ça colle pas trop.
Ouais, voilà. Mais toi, au final,
ouais, ça peut être très très subtil entre l'un ou l'autre. Ouais.
Voilà. Gérard descend une bouteille nue comme un verre.
Ouais, c'est un peu glauque, mais c'est triste en même temps.
Ouais, c'est triste. Mais en même temps, toi, c'est un peu drôle quand même, quoi. Toi, t'as rigolé quand même. Donc, ouais. C'est plein de phrases possibles. Et au final, bah, beaucoup de discussions. C'est vraiment l'essentiel du jeu. Hein. On a tendance à dire qu'il y a certains jeux qui sont fonction des joueurs à la table. Mm. Bon, en réalité, c'est vrai pour tous les jeux. Parce que si tu mets un jeu de cube en bois et que tu joues avec Tati Michel, bah, si elle joue pas au jeu de cube en bois, Tati Michel, ça passera pas, quoi. Tu ouais. prendras sûrement pas plaisir dans la partie, parce que soit tu vas lui rouler dessus, soit elle va râler parce qu'elle t'es obligé d'expliquer 40 fois les points de règle. Bon, bref. Pour moi, cette expression, elle vaut pour tous les jeux. Mais là, on est vraiment dans un jeu d'ambiance où c'est quand même les joueurs qui vont devoir créer cette ambiance-là. Donc, pour tous les jeux, il faut choisir ses joueurs. Mmh. Et là, tu vas avoir des parties différentes en fonction des joueurs avec qui tu vas jouer. C'est pas forcément que tu vois la partie, elle va pas être bien ou quoi. C'est juste que t'as un spectre qui est quand même large entre beau, fun, triste, glauque. Quand tu vas jouer avec des potes, tu vas surtout te marrer quand les phrases vont être fun ou glauque. Mmh. Tu vas avoir des espèces de pas de temps mort, mais comment dire, tu vas avoir l'impression que la partie elle tombe à l'eau des fois quand tu tombes sur les beaux ou les tristes.
Ouais.
Sauf qu'évidemment, si tu les enlèves du jeu, hein, ça enlève quand même pas mal d'intérêt.
Plus trop d'intérêt. Oui.
Voilà, on est d'accord. Et à l'inverse, si tu joues, pour le coup, j'avoue que j'ai pas eu l'occasion de jouer en famille. Il y a une variante qui est proposée dans le jeu, qui est d'enlever l'émotion glauque, plutôt pour jouer avec les petits, parce que voilà, elle est un petit peu, elle est pas facile à comprendre, je pense, pour des enfants de 8 ans. Mmh. Et puis qu'en plus glauque, tu fais des phrases un peu glauques, quoi, et du coup, t'as pas forcément envie de les faire avec des enfants de 8-10 ans. parce que bon là j'ai pas forcément fait un tirage supra glauque là, dans ce que je vous ai raconté, mais t'avais fait une partie avec moi là à la 100e, je pense qu'on avait sorti des phrases bien plus glauques que ça, quoi.
C'est vrai.
Donc voilà, le jeu peut prendre des tournures assez différentes au final selon le public avec lequel tu joues. Mmh. Donc effectivement, j'ai pas essayé la variante où t'enlèves le glauque, parce que ça retire quand même, en tout cas quand tu joues entre adultes, ça retire un certain intérêt du jeu.
Oui, je pense que c'est vraiment pour un public plus jeune, quoi, que ça a été fait, que cette variante a été pensée.
Ah oui, c'est clairement, ça s'appelle la variante famille, hein, voilà. Ouais. J'invente rien, hein. C'est vraiment fait pour jouer avec un public plus jeune. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Moi, je suis pas spécialement très fan du principe de l'échelle. Tu sais, en gros, échelle positive, négative, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Bon, après, dans ces jeux-là, c'est jamais le point fort de ces jeux-là. Enfin, faut bien l'avouer. Les systèmes de points. Bon, voilà. Donc, si vous êtes attaché vraiment aux jeux sur lesquels il y a de la compétition, c'est sûr que là c'est raté, c'est un jeu coop. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un affrontement de la part du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas, il y a pas de mécanique qui s'oppose à toi, quoi. C'est vraiment juste tu gagnes, tu perds, quoi.
C'est le propre
de ce qui se passe autour de la table entre les joueurs qui fait que tu gagnes ou que tu perds, quoi. Mm. C'est pas comme dans Pandémie où t'as vraiment un système de jeu qui s'oppose à toi, quoi. Voilà. Mm. C'est là où je voulais en venir. Donc moi, c'est le genre de truc sur lequel je suis pas super fan, mais pour autant, tu vois, j'apprécie quand même de jouer au jeu. Mm. Ergonomiquement, ils ont plutôt bien joué le coup, parce que y a pas d'ambiguïté sur les débuts de phrases et les milieux de phrases et les fins de phrases. T'as des couleurs déjà. Mm. Et puis en fait, t'as des petits rappels qui te disent en gros comment les bouts de phrases s'accrochent. Bon, bref, c'est pas très. Il faudra que je mette une photo pour que les gens se rendent compte, mais bon.
Ouais.
Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a un truc qui m'a un peu perturbé, c'est sur l'échelle. L'échelle des points. Ils ont fait des petits pions avec des petites flèches dessus.
Oui.
En fait, c'est des pions ronds avec juste une petite excroissance en forme de flèche. Et tu les places, en fait, t'as l'impression, au début, tu les places sur la case d'à côté. Mmh. Avec c'est la flèche qui pointe, la bonne case. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu bizarre comme ça qui fait que tu comprends pas très bien. Et alors j'ai revérifié les dessins. En fait, c'est bien là où il plaçait ton pion. C'est pas là où pointe la flèche. La flèche, c'est juste pour dire le pion avance dans tel sens. Parce que parce qu'il y en a un qui avance dans un sens et un qui avance dans l'autre. Tu vois. Donc au cas où tu sois au milieu, que tu les inverses pas.
Ouais.
Donc du coup c'est bien pensé pour quand les pions sont au milieu et que tu les inverses pas, mais ça perturbe au moins au début quand tu les places, que tu sais plus trop si t'es sur la case d'avant ou la case de dessus. Enfin, bref, voilà. Donc pour les gens qui ont un doute, c'est la case sur laquelle vous êtes qui compte. Voilà. C'est con, mais voilà. Et puis bon, à chaque tour de jeu. Donc tous les joueurs ont joué une carte verte, une carte orange, une carte rouge. Donc tu redistribues une carte de chaque joueur. Donc c'est sûr, quand t'es à 8, bon ben c'est un peu chiant. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement un peu chiant entre guillemets, enfin qu'on pense à passer en explicite le podcast, c'est que t'as les cartes des émotions.
Oui.
T'en as tout un paquet, hein, t'en as vraiment un gros paquet, qui est fait exprès en fait pour que tu fasses pas de metagame en gros. C'est-à-dire que y a tellement de cartes de chaque.
Tu puisses pas anticiper en disant il y a déjà tant de cartes d'une sorte qui est sortie, donc ça peut plus sortir quoi.
Voilà, ouais, c'est ça l'idée. Alors tu peux toujours faire un peu de metagame autour de la table, c'est quand tu joues à 8, forcément, s'il y en a 6 qui sont déjà passés et qu'il y avait 4 glauques, bon bah tu peux te dire il y a peu de chances qu'il y ait encore un glauque, mais bon, voilà. En revanche, à tous les tours, tu dois remélanger toutes les cartes pour les redistribuer. Alors,
tout à fait. Ouais.
Petit conseil, du coup, encore une fois, moi, je distribue 4 émotions à chaque personne. Comme ça, même celui qui est à l'autre bout de la table, il a ses cartes à lui. À chaque coup, tu mélanges tes 4 cartes, t'en prends une, et voilà. Comme ça, ça respecte le principe du jeu de se dire, tu peux avoir n'importe quelle émotion du jeu. Ça supprime complètement le metagame de dire y a déjà 4 glauques de passé sur la table, donc là on est au 5e joueur, il va quand même pas encore avoir un glauque. Et en termes de manipulation, je trouve ça plus simple.
Ouais.
Hein. Donc c'est ma petite recommandation personnelle. Donc voilà, à peu près ce que j'avais à dire sur le jeu. Hein. C'est pas un jeu complètement exempt de défauts, comme j'ai pu le dire. Tu vois, il y a des parties qui peuvent tomber un petit peu à l'eau, ou des coups qui peuvent tomber un petit peu à l'eau, parce qu'au final, faire des phrases belles, ouais, c'est sympa, c'est beau, machin, faire des phrases tristes, ouais, mais c'est pas ce qui provoque l'émotion recherchée dans un jeu de société où t'as plutôt envie de t'amuser. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Pour autant, je me demande si pour le coup, je suis le public du beau et du triste. Tu vois? Non, c'est con, mais il y a peut-être des gens que ça va faire triper de faire un. Tu vois, qui triperont plus de faire des phrases belles ou tristes que de faire des phrases fun ou glauques. Tu vois,
je vois ce que tu veux dire.
Et rien que pour ça, je trouve que c'est intéressant. Tu vois, c'est vraiment. Une veine qu'on trouve pas dans les jeux aujourd'hui, à part du coup Phoenix, qui est pour moi la limite du jeu, tu vois. On a mis un système de points, machin, pour créer des discussions, mais toi, je sens un peu forcé. Et là, je trouve que c'est plus naturel. Et en même temps, il y a ce côté faire des belles choses et faire des choses tristes, donc essayer de faire passer des émotions que tu fais pas passer habituellement dans le jeu de société. Et rien que pour ça, je trouve que voilà, ça valait un petit focus.
Ouais.
Outre le fait que je m'amuse aussi quand même en jouant. Enfin, précisons le quand même.
Non, ouais, je suis d'accord avec toi.
Donc toi, t'as fait qu'une partie, non ?
Non, j'en ai fait une aussi. Enfin, j'en ai fait une avec toi et les autres du coup à la 100e. Et j'y avais joué à Orléans Joue avec ma copine et trois personnes. sur le festival.
Ouais.
Et ouais, on s'était bien amusé. C'est effectivement un bon jeu d'ambiance. J'aime bien le côté, à la fois, il peut être très familial, comme on le disait, avec la variante qui permet d'enlever l'émotion glauque. Éventuellement certaines cartes qui sont un peu border, et le côté jouer plus entre potes ou entre adultes avec l'émotion glauque et avec des phrases qui sont parfois vraiment un peu border. Mais, non, c'est un jeu qui est très agréable, très sympa.
Alors c'est quand même pour les phrases border, c'est quand même moins trash que des limites des blancs manger coco,
oui, c'est pas la même catégorie, non, ça on est d'accord.
On recadre quand même juste parce que c'est vrai qu'on c'est pas forcément clair dans nos propos, mais on est quand même
deux crans, trois crans en dessous, hein.
Ouais. Et d'ailleurs, ouais, si vous aimez les trucs un peu trash et tout, et que vous êtes pas trop réticent sur l'anglais, moi je conseille plutôt Joking Hazard, qui est
en BD, en fait, qui est une espèce de Cards Against Humanity, mais avec des cases de BD, en fait.
Ouais. Et là pour le coup c'est bien trash.
Ouais.
le système des points en plus est pas con. Moi j'ai trouvé ça vraiment pas con. Même si vous êtes moi je suis pas super à l'aise en anglais, mais dans Joking Hazard, des fois t'as des trucs que tu comprends pas, parce que tu jettes la carte, t'en prends une autre, quoi, à la limite. Voilà, en le faisant en toute honnêteté, ça passe, quoi.
Oui.
C'était pour l'aparté. Et oui, donc beaucoup moins trash, effectivement, Affinity. Alors je sais pas si ils préparaient une extension. Moi j'avais joué à Demoiselles des Jeux, et du coup ils nous ont montré, il y avait des cartes spécifiques avec des petits cœurs dessus je crois que l'idée c'est de remplacer avec cette extension, parce que du coup ce serait une extension qui paraîtrait plus tard, de remplacer, je crois, le beau du coup par cette émotion qui est un peu love, un peu love plus, tu vois, enfin ça peut être un petit peu graveleux, quoi.
Ouais.
Et et
un peu chaud, quoi, l'émotion.
Ouais, c'est
chaud.
Ça. C'est ça. Donc du coup il y aurait des cartes en plus qui seraient taguées avec des petits cœurs. Alors je crois que ils ont prévu de le mettre du côté je sais plus c'est quoi l'histoire. Mais il y a un truc qui fait que, ah oui, je crois qu'ils vont les mettre au dos finalement des cartes, pour que quand tu lis la phrase tu vois pas qu'il y a un cœur dessus, pour pas que ça influence, tu vois.
D'accord.
Il y a un truc comme ça, je crois. Donc ça, j'ai pas du tout d'idée de quand ça sortirait, et je pense que c'est vraiment conditionné au succès du jeu pour le coup, parce que c'est sûr que s'ils tirent 3000 boîtes et qu'elles se vendent pas, c'est sûr qu'ils vont pas sortir l'extension, quoi.
Que c'est un jeu qui a un gros, fort potentiel en extension, parce qu'on peut imaginer d'autres sentiments, on peut imaginer les cartes des débuts, milieu, fin de phrase, ils peuvent en refaire plein, donc il y a un potentiel à extension quand même.
Ah bah c'est un jeu à contenu, donc c'est clair que là-dessus il y a une porte ouverte, ouais, c'est clair. D'ailleurs il y a des goodies que je remercie publiquement Paul Gara d'avoir fait parvenir le goodies plateau, parce que je ne suis plus abonné au plateau parce que j'ai trop de numéros en retard, c'est juste pour ça. J'ai vu que sur la carte de garde entre guillemets du petit paquet, il y a une indication en gros qui a l'air de dire que il y a d'autres petits paquets de goodies dans d'autres lieux. En gros tu peux en avoir dans tes boutiques, tu peux en avoir un sur le festival
qui sont différents du coup,
a priori. Oui, du coup,
d'accord. Ouais, c'est une bonne idée pour la promo.
Non, voilà, ouais, ça fait pour les complétistes. Je crois qu'il y a sept trucs différents, si je dis pas de bêtises. Bon, je sais pas si toi tu veux rajouter des choses.
Non, après, j'avais une petite remarque en tête, parce que il y a eu le cas sur les deux parties que j'ai faites. En termes d'édition, en fait, il y a un petit plateau avec des symboles d'émotion sur lequel on va, en fait, le joueur qui lit la phrase, c'est lui qui a le dernier mot pour essayer de deviner l'émotion de son voisin. Mmh. Donc il va mettre un petit totem, un petit bâton en bois sur l'émotion qu'il choisit. Et en fait, il y a les quatre émotions et il n'y a pas le rappel de ce que c'est. Et donc, en festival, sur le livre des règles, il y a exactement le même dessin, mais avec les noms des émotions en bas.
C'est une bonne remarque.
J'ai vu qu'en festival et chez toi aussi, on a plutôt joué, plutôt qu'avec le petit plateau qui est normalement fait pour, on a joué avec la règle ouverte à la page émotions pour rappeler le nom des émotions. Donc voilà.
En,
c'est...
En plus, ce qui est marrant, c'est que la règle, comme tu dis, là, c'est, en fait, c'est au dos de la règle qui est pliée. Ouais. Alors c'est marrant parce que ah oui alors j'ai pas dit mais l'édition elle est quand même top parce que le ouais, c'est une boîte
la
qui s'ouvre
boîte aimantée
ouais c'est ça et du coup t'as le plateau qui se déplie
puis t'as le distributeur de cartes
exactement c'est dommage il y a pas les distributeurs de cartes dans l'autre sens pour la défausse mais bon c'est pas grave tu défausses tes cartes un peu n'importe où pendant la partie éviter de défausser les cartes dans les autres emplacements qui
ouais,
ont la bonne taille.
On a du mal à les récupérer après.
Et c'est ça, ils ont pile la bonne taille en fait, c'est ça le problème.
C'est bien pour ranger quoi. Mais...
c'est ça. C'est... Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Et oui, donc il y a un petit plateau, effectivement comme t'as dit, avec les émotions. Et la carte du coup fait la même largeur.
Ah, la même taille que la règle.
La règle fait la même largeur. Et en fait, c'est au dos de la règle du coup qu'il y a les 4 centimes. Donc ça fait exactement la même taille. Et effectivement, là, c'est bien marqué dessus ce que c'est et la règle c'est enfin ça fait 2 pages et demie quoi ça, c'est non c'est ultra simple de toute façon je pense que vous avez compris avec l'explication je vous ai tout dit quoi enfin,
ouais, ça plus une ou deux photos ils auront compris ouais
c'est clair donc ouais c'est vrai que du coup on peut noter sur un jeu qui finalement est assez simple finalement il y a 2-3 petites erreurs d'édition c'est là qu'on voit que c'est un jeune éditeur. Et pourtant,
globalement, c'est de bonne facture.
Ah oui, non, mais c'est attention, je parle pas du matériel.
C'est des,
hein.
Des petits détails, quoi. C'est du détail, ouais. C'est du détail
ouais, non,
qui
c'est,
est dommage.
C'est vraiment des. C'est juste 2-3 détails ergonomiques. Tu vois les tu vois, c'est comme les pions là qui avancent sur la piste de score. Tu vois la petite flèche, tu te dis de base c'est une bonne idée. Puis en fait, comme c'est un truc dont t'as pas l'habitude, tu fais merde. Elle sert à quoi la flèche? c'est ultra con, c'est juste que c'est pas conventionnel. Après, ouais, toi, la boîte est montée, c'est super bien trouvé avec les distributeurs, enfin,
c'est bien foutu, ouais.
Voilà, bon, bah, je pense qu'on va. Je vais juste rappeler la petite fiche signalétique quand même. Affinity, c'est un jeu de Roméo Aignon, Dabi Bernard, Clément Leclerc, Jean-Philippe Sahu, édité par Gameflow, distribué par BlackRock. C'est illustré par Emma Ferraro pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans, des parties de 20-30 minutes, on va dire. Une vingtaine d'euros chez Philibert. Donc oui, les illustrations, on est passé rapidement, mais moi je trouve ça vraiment très joli. Ça tend plutôt sur le familial quand même.
Oui,
sur,
c'est très coloré, c'est très, voilà. Très arrondi.
Et sur le nombre de joueurs, alors oui, 3, oui, enfin si j'ai dit, je crois, hein, que à partir de 4-5, je trouvais que c'était quand même mieux.
C'est plus sympa qu'à 3, ouais, je pense.
Ouais, 3, j'ai fait une partie, hein, mais la discussion va plus vite, quoi, forcément, il y a que 2. Alors que je trouve que tout l'intérêt du jeu, il est quand même dans la discussion et dans les rebondissements dans la discussion. Et du coup, plus il y a de joueurs autour de la table, évidemment, et plus il y a de rebondissements.
Plus ça part dans tous les sens.
Bon, en revanche, ça peut durer du coup plus de 30 minutes si vous êtes 8 joueurs et que tout le monde discute dans tous les sens.
Bon, après, les curseurs avancent plus vite aussi à 8. Hein. On fait moins de tours.
Tu fais moins de tours.
Ouais.
Et ben, je pense qu'il est temps de clore l'émission. Pensez que si vous avez aimé notre chronique, ou si vous ne l'avez pas aimé d'ailleurs, hein, vous pouvez nous laisser un commentaire sur le site. Et puis, si vous avez aimé la chronique, pensez à nous faire un petit don sur Tipeee ou via PayPal. Tipeee, vous cherchez Tipeee Proxy Jeu, ou vous allez sur la page d'accueil, il y a un lien. Et le PayPal, c'est pareil, il y a un lien sur la page d'accueil. Donc voilà. À votre bon cœur, hein, les auditeurs. Et du coup, on va se retrouver le mois prochain.
Hein.
Alors, sauf que le mois prochain, ça risque d'être un numéro spécial.
Effectivement.
Il se pourrait bien qu'on parle des Sun. A priori, c'est plutôt prévu comme ça dans le planning.
Okay.
Du coup, tu seras pas là?
Non.
Ah merde.
Bah, je suis pas à SN, moi, non.
Ah merde. On t'invitera quand même pour faire la chronique jeu du mois, presque jeu du mois.
Moi, si vous voulez, je passerai dire bonjour,
ouais. Ok. On t'invitera en guest star. Voilà. Bon, dans tous les cas, on se retrouve, si c'est pas le mois prochain, ce sera dans 2 mois.
Dans 2 mois. Hein.
Et puis, quoi qu'il en soit, jouez bien. bienvenue dans ce nouveau numéro des... Oh, j'allais dire des plateaux de mérite. Parfait.
En fait, il y avait deux pages sur Board Game Geek.
Ah, t'as pas tourné la page.
Non, j'ai pas tourné la page. Bah voilà, l'avis final, bah, je pense que vous l'avez compris, ça.
Non, pop.
Donc c'est Ganymède.
Attends, j'ai pas le droit de donner mon avis, moi.
Ah bah si, c'est vrai, t'as joué, vas-y, vas-y.
C'est pas comme dans Pandémie. Dans Pandémie.
Dans Pandémie.
Dans Pandémie.